carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Depuis 1975, Gérard Capazza est le galeriste, le magicien et l'âme d'un lieu magnifique situé à Nancy dans la Sologne-du-Cher. Comme Aimé Macht, naguère, il a fait le choix d'installer sa galerie, celle qui porte son nom, dans cette province, dans une région qui passe toutefois pour le 21e arrondissement de Paris, cette Sologne berrichonne chantée par Marguerite Audoux et Alain Fournier, là même où Olivier Messiaen aimait à enregistrer autrefois le chant des oiseaux. La galerie Capazza est aujourd'hui connue des plus grands collectionneurs français et étrangers. Gérard Capazza, bonjour.
Bonjour.
Votre pari de vous installer à Nancy était audacieux, vous l'avez relevé brillamment. Est-ce que vous pourriez nous présenter néanmoins cet écrin magnifique qui vous permet d'exposer là les artistes que vous aimez ?
Très volontiers. Le lieu qui, effectivement, maintenant abrite les œuvres de 80 artistes que nous avons sélectionnés très consciencieusement au fil du temps, est à l'origine, c'est un lieu patrimonial qui est une ancienne caserne du XVIIe. C'est le seul témoignage d'une architecture militaire en région centre. Et ce lieu, lorsque nous l'avons découvert, il nous a émus, touchés. Et nous avons entrepris laborieusement son sauvetage, puisque pour qu'il ait sa beauté actuelle et qu'il ait retrouvé sa noblesse d'origine, il a fallu pas moins de 14 000 tonnes de travaux.
Alors, pour avoir la chance de connaître votre galerie, il faut avouer que ce site est magnifique. Vous êtes à l'ombre d'un très beau château, le château qui appartenait autrefois au maréchal de La Châtre.
Tout
le maréchal et son fils étaient des proches du pouvoir, gouverneur du Berry, proches de Louis XIII et Louis XIV. Et vous avez fait, effectivement, depuis 1975, un travail ahurissant en restaurant patiemment ces communs et en faisant un rendez-vous, je dirais, incontournable de la création contemporaine. Dans un monde dont on a coutume de dire qu'il est en crise, et pas seulement sur le plan économique, vous avez fait de ce lieu une étape obligée et vous êtes de ceux qui pensaient qu'il faut revenir justement dans ces périodes de crise économique ou intellectuelle vers les fondamentaux de l'art. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce concept qui vous est cher ?
Alors, les fondamentaux, bien sûr. C'est-à-dire que ma conviction est la suivante, c'est que je pense qu'il faut écrire avec le signe de son époque. Mais j'adhère beaucoup à cette pensée très profonde d'André Lhote qui a parlé d'invariant plastique. Pour moi, la force d'une œuvre, elle est au-delà du temps. Et j'aime beaucoup l'adéquation entre ce lieu historique et les œuvres d'artistes contemporains que je présente, en espérant que le public qui nous rend visite, les amateurs, les collectionneurs, ressentent, et je crois que on peut l'affirmer puisque nous avons des témoignages permanents, ressentent que la force d'une œuvre, elle n'est pas dans la mouvance strictement liée à la mode de la décennie en cours, mais ma recherche est au-delà de cela. Ça, c'est un des aspects liés à votre question. Pour moi, les fondamentaux plastiques, oui. Donc, évidemment, je peux développer. Je pense avoir, après m'être inquiété longuement, parce qu'il n'est pas question d'adhérer à une théorie sans l'avoir intégrée au plus profond de soi et en avoir douté, dont je me suis, je pense, très très sérieusement questionné pour savoir ce qu'était la qualité d'une œuvre. Et bien évidemment, mon propos s'appuie sur des réflexions, des essais et des théories qui ont été menées par des gens dont la compétence ne fait aucun doute. Je peux donner un exemple pour essayer d'être plus concret. Quand on regarde et quand on veut goûter une peinture, il me semble important, si on en a le désir bien sûr, d'apprendre à lire la valeur d'un ton, indépendamment de sa couleur. C'est fondamental pour s'apercevoir de la justesse d'un espace dans le tableau. La qualité picturale, ce n'est pas une improvisation. On est bien au-delà, évidemment, du « ça me plaît, ça ne me plaît pas ». Il y a quand même, en tout cas pour le professionnel que je suis, la nécessité de répondre sérieusement aux interrogations de qui le souhaite par rapport à ce sujet fondamental qu'est la reconnaissance de la qualité d'une œuvre.
Alors, dans la galerie qui porte votre nom à Nancy, la peinture, la sculpture sont présentes bien sûr, mais aussi différents supports, enfin les bronziers, le verre, la céramique beaucoup. C'est vous qui, je crois, parliez de la céramique comme d'un ADN de l'art.
Oui, bien. C'est gentil de le dire comme cela. D'une manière plus générale, je pense que mon propos est un peu atypique par rapport à l'ensemble de la profession. Cela dit, je ne me suis pas inscrit dès mon départ comme un galeriste parmi d'autres, le terme galeriste est venu au fil du temps. Ma passion, c'est de défendre la création, car je crois profondément à ses vertus sur le plan humain. Peut-être qu'on en reparlera, au cours de,
création et rencontre
de cette conversation.
Sont des mots importants pour
vous. Tout à fait. Cela dit, ce qui caractérise mon propos, c'est de mettre à plat ces hiérarchies entre art majeur et art appliqué, voire art mineur, puisque malheureusement on ose qualifier d'art mineur la céramique, les arts du feu. Donc je m'inscris en faux contre ces lectures qui pour moi sont la résultante de nécessités que je peux comprendre institutionnelles, mais ce sont des préoccupations de classification qui ne sont pas directement liées à ce qu'est l'émotion face à une œuvre, quelle qu'en soit la matière, qu'elle soit en volume, qu'elle soit contenante ou non contenante. Ça, c'est un sujet qui me passionne totalement. Moi, je pense que la puissance créatrice d'une œuvre est créative. Elle est au-delà de tous ses supports. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout ce qui est plastique doit, en tout cas dans la quête initiale de l'artiste, tenter de toucher à ce qu'on peut nommer l'art, mais il n'y a pas de mode qui serait, pour moi, privilégié par rapport à d'autres et, a priori, considéré comme nécessairement supérieur. C'est impossible dans ma lecture.
Alors, il y a sans doute un trait qui est lié à l'histoire de cette partie de la région centre. On est dans le département du Cher, entre Sologne et Berry. La céramique, elle a une histoire importante tout près de chez vous, du côté de la Borne, dans ce village de création. Et vous exposez des gens, des artistes vivants ou morts, dont la réputation en tant que céramiste est aujourd'hui internationale. Je pense à Christine Fabre. Et je pense aussi à quelqu'un qui est très important aujourd'hui pour vous, et dont les œuvres sont magnifiques, qui est Jean Clos. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces deux artistes ?
Oui, très volontiers. La rencontre avec Georges Jean-Clos, je pense que tout le monde a au moins entendu le nom de Georges Jean-Clos, mais à Paris, ses œuvres sont en place au rond-point des Champs-Élysées, le mémorial Jean Moulin, en regard de Notre-Dame, la fontaine Saint-Julien-le-Pauvre, rive gauche dans ce petit jardin magnifique. Donc, le bonheur de notre histoire fut cette première rencontre avec Georges Jean-Clos, qui est venu nous rendre visite, car, j'allais dire malheureusement, il revenait dans notre région des Puits-de-Guéry. Il est l'auteur du mémorial des Puits-de-Guéry, à côté de Bourges, qui évidemment sont la trace d'une atrocité parmi tant d'autres.
Commise à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Absolument. Cette première rencontre a été extrêmement émouvante, puisque lui-même était directement affecté et de manière dramatique par cette horreur, puisque 36 pauvres malheureux ont été jetés vivants et murés dans des puits. C'est même pour moi toujours très difficile d'en parler. Il a visité le lieu, il avait besoin de se remettre de son émotion et puis il était invité à venir jusqu'à nous par son cousin qui lui-même habitait Vierzon et qui était lui aussi directement concerné par ce drame. Ils ont fait un tour très attentif. Le lieu est grand, ils ont pris leur temps et je savais que Jean-Claude n'avait pas besoin de la galerie Capazza pour sa reconnaissance, loin de là, puisqu'il était déjà connu. Et au moment de se quitter, j'ai commencé une phrase, c'est du mot à mot, je lui dis « Monsieur, bien évidemment ». Il a compris, il m'a mis la main sur l'épaule, il ne m'a pas laissé terminer ma phrase et il m'a dit « Ce que je viens de sentir chez vous, monsieur, c'est oui tout de suite ». Donc ça, c'est un des moments de bonheur de notre histoire parce que nous avons ensuite eu des échanges extrêmement profonds. J'étais encore hier soir avec, malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais j'étais hier soir encore avec ses enfants et sa veuve et nous préparons pour printemps 2010 une exposition majeure qui permettra de découvrir les dernières œuvres qui pour la plupart n'ont pas été montrées puisqu'il avait créé une collection destinée à sa famille et c'est un grand bonheur pour nous d'être en pleine préparation de cet événement.
Alors on l'a compris, Gérard Capozza, vous êtes un des grands ambassadeurs et un ami de Georges Jean-Clos. Je voudrais juste citer un de nos académiciens français, François Cheng, qui a connu lui également Jean-Clos et qui avait collaboré à la publication et à la rédaction d'un catalogue des œuvres de Jean-Clos. Voilà ce qu'il écrivait à propos d'une des œuvres les plus sensibles de Jean-Clos, Le couple de dormeurs, une œuvre qui date je crois de 1995. Pénétrer le sommeil de ces dormeurs qui se laissent plus oublier et qui hantent à leur tour notre sommeil. Fragiles et friables, par quelle voie émouvante nous conduisent-ils à leur mystère ? Pénétrer leur sommeil, n'est-ce pas nous plonger dans notre propre mystère, dans cette part d'ombre sans cesse à l'homme dérobé ? Sans entrer dans le détail, Gérard Capazza, est-ce qu'on peut expliquer, c'est difficile à la radio sans image, mais il y a une technique étonnante chez Jean-Claude qui fait des œuvres figuratives ou qui semblent de poussière ou de cendres mêlées.
Oui, effectivement, ce qui était pour Georges Jean-Claude une nécessité absolue quant à la psychologie de son œuvre, c'est cette matière grise, non émaillée, qui pouvait renvoyer à la poussière originelle. Si je
oui, il y a une part d'éternité. Il faut rappeler qu'il était prix de Rome, pensionnaire de la Villa Médicis.
Absolument,
on a affaire à quelqu'un dont le talent a été reconnu par tous.
Absolument. Et donc, ce que Georges voulait montrer, c'est que la vie est un segment. Et il avait longuement cherché cette matière qui contenait cette idée-là. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je dois oser dire que je n'ai jamais vu des œuvres dont les visages soient de si petite taille, chargés d'autant d'expressions,
d'émotions, oui.
Autant d'émotions, autant de vie et autant de profondeur. C'est quelque chose qui me fascine indéfiniment, tellement les gens sont transportés face aux œuvres de Georges Jean-Claude, parce qu'il touche à cœur de par son talent. C'est bien évidemment au-delà de la matière, c'est son talent et son génie d'artiste.
Alors, je citais un autre nom tout à l'heure, peut-être plus contemporain, plus immédiat. Je parlais de Christine Fabre, qui va nous amener à parler aussi de votre collaboration avec le musée de Sèvres, la cité de la céramique.
Oui, Christine Fabre, Claude Champy, par exemple. Nous avons la chance, au fil du temps, d'avoir... Ce n'est pas moi qui le dis, mais il semblerait que tout le monde soit d'accord pour admettre que les plus grands céramistes français soient présents chez nous. Christine Fabre, nous l'avons rencontrée à ses débuts, comme la plupart. Ça a été aussi le bonheur de mon histoire, puisque s'il fallait que je me définisse, je pense être un découvreur plutôt que l'inverse, c'est-à-dire s'approprier des noms connus pour exister. Bon, excepté Georges Jean-Claude, mais on a parlé du miracle de cette rencontre. Mais tous les autres artistes avec lesquels nous avons cheminé étaient comme nous-mêmes à la phase embryonnaire de leur histoire. Et il semblerait que peut-être mon regard a su très tôt discerner la promesse d'une vraie qualité et d'une vraie force. Alors Christine Fabre, on s'est connus à nos débuts et... Avec la plupart de mes artistes, la relation qui se noue est très forte, parfois très affective, mais ça vient certainement de moi aussi. Et c'est un accompagnement. Et là, quand on est dans des... Aujourd'hui, il y a un mot évidemment qui résonne et qui est clinquant. On parlerait de coaching, mais je m'inscris en faux par rapport à cette terminologie. Mais l'accompagnement des artistes, c'est-à-dire... Pourquoi pas les pousser, pourquoi pas les faire réfléchir sur d'autres matières. Avec Christine Fa, par exemple, nous avons ensemble donné naissance, je me sens une petite paternité dans son travail, sur l'idée qu'elle soit, à ma connaissance, la seule ayant créé des triptyques à base de trois matières, la terre, le verre et le bronze. Sachant que le triptyque devient évidemment une œuvre indissociable. Bon, tout ça, ce sont des grands bonheurs et le passage par rapport au début de cette conversation qui consiste pour moi à faire qu'un céramiste puisse un jour quitter ses repères de céramiste pour être considéré de manière incontestable et reconnu comme un sculpteur, c'est quelque chose qui m'anime et qui, me semble-t-il, fait partie de ma mission. Claude Champy a été aussi un grand bonheur puisque cette année, il a été consacré par une grande exposition rétrospective au musée de Sèvres. Ça a été pour nous l'occasion d'un très beau partenariat avec l'institution. C'est très heureux que le monde privé que j'incarne puisse dialoguer et coopérer avec l'institution, car je pense que les artistes ont besoin d'être défendus de manière conjointe et pas, bien au contraire, c'est récent. Mais je me bats parce que l'acte marchand, d'un point de vue institutionnel, avait parfois une complexité, voire une suspicion. Mais il faut bien que les artistes puissent vivre, n'est-ce pas ? Et pour moi, l'acte cum merce, c'est échanger avec. Ce n'est pas un acte coupable, loin de là.
Nous avions compris, Gérard, que vous étiez un découvreur. Et si vous le voulez bien, nous allons marquer une petite pause et je vous demanderai de nous présenter ensuite quelqu'un qui est un artiste très présent dans votre galerie, que nos auditeurs connaissent bien puisqu'il est venu ici à Canal Academy. C'est Gucci, qui est quelqu'un que vous connaissez bien et qui est devenu un ami.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Ferth, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademie.com.
Nous retrouvons Gérard Capazza qui vient nous présenter quelques-uns des artistes de sa galerie, la galerie qui porte son nom à Nancy, dans le Cher, dans cette Sologne du Berry, au cœur de la France. Alors, nous parlions de découverte, vous appeliez vous-même découvreur tout à l'heure, Gérard.
Tout à fait.
Et je crois que vous pourriez nous parler d'une grande rencontre, une rencontre féconde, fructueuse, qui est celle que vous avez faite avec Gucci.
Très volontiers. Nous avons rencontré Gucci à nos tout débuts, c'est-à-dire en 1976. Gucci arrivait tout juste de son pays d'origine,
la Géorgie.
Il était loin d'être le grand orfèvre désormais mondialement reconnu. Et ça aussi, c'est un vrai bonheur dans notre parcours, puisque nous ne nous sommes plus quittés, si vous me permettez l'expression. Nous avons cheminé, progresser ensemble, et c'est une amitié qui s'est construite pratiquement en parallèle dans le développement de nos parcours. Et que dire de Gucci, c'est vraisemblablement, en tout cas, les personnalités les plus confirmées et les plus autorisées sont unanimes pour estimer qu'il est le plus grand orfèvre contemporain au niveau international. Donc, il constitue pour nous un des piliers de notre histoire, tant sur le plan de la capacité et le bonheur de pouvoir montrer ses œuvres extraordinaires, mais aussi le témoignage d'une fidélité absolue qui est aussi très chargée de sens pour nous.
Alors Gérard Capazza, vous vous êtes installé à Nancy, mais vous exposez dans de nombreux rendez-vous internationaux. Quand on est présent comme ça aux États-Unis, en Belgique ou ailleurs, on croise des milieux très différents. Comment vous positionnez-vous en tant que galeriste ? Vous parliez de l'acte marchand tout à l'heure en disant que votre métier était quelque chose qui dépassait de beaucoup, et on l'a compris, c'est simple acte de vente ou d'achat. Comment vous positionnez-vous par rapport à ces gens qui entrent dans votre galerie, dont certains sont de grands collectionneurs, pas connus du grand public, mais que vous reconnaissez, et d'autres des gens qui ont une démarche beaucoup plus modeste, sans doute ?
Je dois dire que je me sens extrêmement disponible à la rencontre, quels que soient les publics. C'est aussi quelque chose qui peut-être pourrait paraître atypique. Dans ma logique et dans ma manière d'agir lorsqu'on va sur une foire à l'étranger, c'est un acte de rencontre et c'est un peu aussi du missionnariat, parce que dans cette logique de découvreur que je pense être, il y a aussi ce qui va de pair, c'est-à-dire être révélateur. À part les plus grands noms, les artistes français ne sont pas tous nécessairement connus aux USA. Donc si on part, c'est pour défendre la cause et révéler à un public moins prévenu qui incarne et illustre la création française de très haut niveau. Donc ça, c'est tout à fait joyeux, mais je suis aussi disponible pour la personne qui, de toute évidence, aura le profil d'un collectionneur et vraisemblablement donne le sentiment d'être susceptible de passer à l'acte, c'est-à-dire d'adopter une œuvre. Mais n'oublions pas non plus que sensibiliser un public moins averti, plus large, le grand public, à des choses qui lui échappent ou qu'il découvre avec curiosité, mais en ayant besoin d'être accompagné dans la lecture de l'œuvre en question, c'est quelque chose qui me passionne. Si vous me permettez cette parenthèse, avant d'avoir créé ce lieu nommé Galerie, je fus, au tout début de mon histoire d'homme dans le monde professionnel, le plus jeune directeur de France de maisons de jeunes et de la culture dans les banlieues difficiles. Je n'ai donc pas oublié la vertu d'essayer d'introduire l'art dans toutes les couches de population. Ça reste pour moi une évidence. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous nous sommes attaqués au sauvetage de ce lieu qui permet d'avoir plusieurs niveaux d'accueil. C'est un lieu qui se visite comme un château de la Loire et qui permet de s'ouvrir à un public très large. Et puis, c'est un lieu aussi, comme vous le disiez, qui nous permet d'accueillir les gens les plus repérés, les plus en vue.
Alors, on accuse parfois l'art contemporain d'être un art très élitiste, de posséder des codes qui sont encore plus difficiles à déchiffrer ou à lire que des œuvres anciennes et référencées. Vous parliez de vos fonctions passées. Comment est-ce qu'on peut justement introduire la jeune génération ou l'amener à découvrir le marché de l'art et de l'art contemporain ?
J'aimerais, si vous le permettez, apporter un point de précision, parce que art contemporain, c'est encore aussi maintenant un piège, c'est devenu un label institutionnel. C'est-à-dire que quand on prononce ces deux mots, art contemporain, les gens s'effraient, car la lecture qu'ils en font, c'est ce qu'ils ont l'habitude de voir dans les musées. Et je dois dire que si moi aussi je pense pouvoir parler d'art contemporain, c'est pas nécessairement dans des logiques qui seraient celles de la décennie qui impose comme un fer de lance l'apologie du concept. Ce n'est pas mon histoire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut encore se battre et toujours, toujours, pour la culture du sensible, car la création contemporaine sensible qui permet l'émotion, elle existe. Dieu merci. Plutôt que d'être obligé d'avaler 15 pages pour deviner ou enfin comprendre ce qui préside à l'intention, sachant que le résultat, assez souvent, quand on parle d'art contemporain conceptuel, est totalement abscon. Je regrette si mes propos donnent un ton passéiste. Je pense que non, puisque beaucoup de personnes qui font confiance à mes propos pensent que nous sommes en avance sur le temps. Parce que on ne peut pas confondre. Il y a eu des grands événements politiques en 68 qui ont vraisemblablement brouillé quelques pistes. On ne peut pas confondre. Les artistes ne sont pas des sociologues, de mon point de vue. La création ne peut pas être détournée au point d'être le prétexte à de l'idéal de manière constante. Je pense que l'émotion pour elle-même a encore droit d'exister. En tout cas, c'est ce qui m'engage.
Alors, si l'émotion a le droit d'exister, est-ce que les galeries ont encore un bel avenir devant elles? On voit aujourd'hui des artistes mondialement connus, je pense à Damien Hirst, qui sont suivis d'une cohorte d'attachés de presse, de coachs, d'investisseurs, destinés à court-circuiter très souvent les galeristes et à traiter à prix d'or des œuvres qu'on commande des années à l'avance. Quel regard est-ce que vous posez sur ces techniques-là?
Moi, je pense que ce sont des logiques qui sont des signes du temps par rapport à une espèce de déviation de ce qui mène. En tout cas, je ne peux pas me reconnaître dans des logiques
c'est
comme
évident.
Ça. C'est-à-dire que le, pardonnez-moi, c'est un peu trivial, mais le gros business qui gravite autour de l'art, le marché, comme l'on dit, c'est de la fabrication pure et simple, et n'importe qui est capable de l'induire. Donc, nous sommes vraisemblablement dans une solitude plus aiguë encore. J'avais cette conversation avec un critique que je considère sérieux et profond, qui me disait il n'y a pas longtemps, nous sommes dans un monde où tout est atomisé, chaque artiste doit réinventer son propre alphabet plastique, bien sûr. Mais l'ère de la communication, puisque le label du ministère de la Culture s'est vu adjoindre le mot « communication », on pourrait parfois se poser la question de savoir si la communication, avec ce que ça sous-entend, est devenue plus fondamentale que la culture en tant que telle. C'est une question qui mérite peut-être d'être posée.
Gérard Capalza, vous avez créé votre galerie en 1975, on en célèbre les 35 ans. Je crois que vous avez une actualité très riche, peut-être que vous pouvez nous en parler.
Volontiers. Comme chaque année, de toute façon, peut-être qu'il est important que les auditeurs le sachent, ce lieu n'est pas statique, il vit à travers un cycle et une programmation qui est trimestrielle. On peut chez nous découvrir 9 expositions personnelles chaque année, accompagnées de catalogues. Donc tout cela, c'est un vrai travail. Et il y a évidemment des programmations qui sont résonnantes par rapport à l'actualité. À savoir qu'à l'automne, la France accueillera l'Académie internationale de céramique, qui rassemble les 200 plus grands céramistes de la planète, et qui viennent pour un voyage que l'on pourrait qualifier d'officiel en France. Et la programmation de ce circuit passe bien sûr par Paris, évidemment, par le musée de Sèvres, par le musée des arts décoratifs, et par la galerie Capazza, donc nous sommes heureux de cela. Et ce qui me permet de donner une information très claire, deux des très grands noms français, même si Setsuko Nagasawa, c'est un nom japonais, mais elle est ressortissante française, et Bernard de Jonc sont en train de travailler très sérieusement, et déjà depuis plus d'un an, pour deux expositions personnelles fondamentales que nous présenterons à l'automne dans le cadre de cet accueil de l'Académie internationale de céramique. Ceci d'une part. D'autre part, puisque vous m'invitez à parler des événements et de la programmation, nous préparons pour mars 2011, c'est-à-dire une exposition avec les œuvres de Georges Jean-Clos, qui sera très, très, très émouvante. Cela dit, au-delà du cycle des expositions personnelles, il faut savoir que chez nous, le public découvre en permanence les œuvres de cette entité constituée au fil du temps qui rassemble pas moins de 80 artistes. Peinture, sculpture, céramique, verre, orfèvrerie.
Citons des noms comme Gucci, Coignard, Philibert Charin, oui, les frères Le Perlier, Nathalie Graal, Franta,
tout à fait.
Et tant d'autres.
Voilà.
Et tant d'autres. Oui. Gérard Capazza, je vous remercie infiniment d'être venu nous présenter votre galerie. J'en redonne peut-être l'adresse. La galerie Capazza se trouve à Nancy. C'est un petit village plein de charme qui se trouve dans la Sologne du Berry, dans le département du Cher. Gérard Capazza, je vous remercie infiniment.
Merci à vous, David.